C'est un plaisir pour moi de pouvoir apporter la parole. Donc, je vais tout simplement commencer en priant, puis on va demander au Seigneur de faire son œuvre ce matin. Seigneur Dieu, on vient devant toi tous ensemble en communauté, des frères et sœurs, Seigneur, puis on te demande de venir toucher nos cœurs et de, Seigneur Dieu, nous faire ouvre les yeux de notre cœur, puis ouvre nos oreilles, qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire à tous et chacun. Et vraiment qu'on puisse sortir d'ici, Seigneur Dieu, encourager, stimuler dans notre foi et ressourcer aussi, Seigneur. Donc, merci pour ce privilège que nous avons de librement lire ta parole, Seigneur Dieu, puis s'édifier les uns les autres ici au Canada. Merci, Seigneur Dieu, pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, je voulais commencer mon message avec une citation. Et l'auteur de la citation est vraiment un nom bizarre, là. C'est Warren Wiersbe. Je pense que j'ai bien eu. Donc, il dit ceci à quelque part. L'adoration est la soumission de toute notre nature à Dieu. C'est la stimulation de notre conscience par sa sainteté. C'est l'alimentation de notre intelligence avec sa vérité. La purification de notre imagination par sa beauté. L'ouverture de notre cœur à son amour. Le renoncement de notre volonté pour son plan. Une des choses que moi je trouve beau dans cette citation, c'est le fait qu'il parle de la soumission comme étant un acte d'adoration. Et je ne sais pas si pour vous c'est le cas comme moi, mais je pense que la soumission dans la culture, c'est vraiment loin d'être quelque chose de bien vu, de bien valorisé. Mais dans le Seigneur, du moins selon ce pasteur et cet auteur très connu, Warren Wiersbe, lui, il dit que c'est un acte d'adoration, le fait de se soumettre à Dieu. Et je trouve ça beau de voir ça. Puis c'est un peu dans ce sens-là que je veux, en fond, apporter mon message ce matin. Le titre de mon message, c'est ça. Librement se soumettre au Seigneur. Et puis, ce qui est beau dans la parole de Dieu, de ce que moi je trouve en tout cas, c'est que il y a, oui, cette invitation à se soumettre à Dieu, mais le Seigneur le fait tout le temps d'abord en gagnant notre cœur, puis il le fait jamais par la force, ni par l'imposition, mais par l'inspiration, par, dans le fond, en venant nous démontrer tout son amour. J'ai fait une petite recherche rapide avec une concordance sur Internet. J'ai cherché le mot « imposer », si le mot « imposer » venait souvent. Et puis, il n'y a pratiquement aucune fois où est-ce qu'il y a le mot « imposer » ou « imposition ». La seule fois que c'est là, c'est pour parler de l'imposition des mains, pour guérir les gens. Il y a pas, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas nécessairement ce concept-là qui est très marqué. Mais il y a un concept, par exemple, de se soumettre. Et je vous invite à tourner avec moi dans Genèse 3, versets 1 à 8. C'est le texte qu'on va avoir comme base ce matin. Et puis, je veux regarder dans le fond, alors que le péché faisait son entrée dans le monde, quand Adam et Ève étaient face au serpent et qu'ils étaient tentés, je veux regarder où était Dieu. Puis c'est intéressant dans le texte, il y a comme des petites indications, tu sais, de où est-ce qu'était Dieu. Et je pense que ça nous donne des petits indicateurs intéressants pour la réflexion de la soumission par la suite à sa volonté. Donc, Genèse 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc, une des choses qui me frappe dans ce passage-là, c'est que alors que, comme j'ai dit tantôt, le péché va faire son entrée dans le monde dans quelques instants, Dieu ne semble pas présent, ne semble pas être là pour empêcher ça. Premièrement, il me semble que pour moi, si je regarde ça comme avec un œil de sceptique, j'aurais pu me dire, pourquoi est-ce que Dieu, au verset 2, non, du moins, même au verset 1, ne reprend pas tout de suite lui-même le serpent pour dire, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il pouvait pas manger de tous les arbres. J'ai dit qu'il pouvait manger de tous les arbres sauf un. Pourquoi est-ce que, dans le fond, Dieu n'intervient pas tout de suite, mais il laisse la femme répondre? Ou encore, on pourrait se poser comme question, pourquoi est-ce que, après que la femme ait répondu, il ne reprend pas la femme en disant, c'est pas totalement vrai ce que tu as dit, parce que tu as dit que tu ne pouvais pas manger de l'arbre qui est au milieu, et tu ne pouvais pas y toucher. Alors que Dieu n'avait pas dit qu'il ne pouvait pas y toucher à l'arbre. Fait que c'est comme si, entre la question du verset 1 du serpent et la réponse de la femme au verset 2, il y a comme la perception du commandement de Dieu chez la femme a changé, dans le sens que le commandement, littéralement, c'est « tu ne mangeras pas de l'arbre », mais ce qu'elle dit, c'est « tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas ». Comme si c'est encore plus sévère à ses yeux que qu'est-ce qu'il avait vraiment dit. Dieu aurait pu intervenir puis tout de suite rectifier ça puis dire « non, voici tout comment ça, qu'est-ce que j'ai dit en réalité ». Ou encore, au verset 4, encore pire, « Vous ne mourrez pas du tout. » Le serpent traite directement Dieu de menteur. Dans le fond, ce que Dieu a dit, que comme conséquence que vous allez subir si jamais vous faites ça, c'est pas vrai du tout. Donc, Dieu aurait pu intervenir là encore. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce passage-là, c'est vraiment le verset 8. Parce que le verset 8 nous dit « Où était Dieu? » Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Dieu était parti prendre une marche. Lorsque le chat est parti, les souris dansent, on dit. Dieu était parti prendre une marche. Dieu, dans le texte, on voit que Dieu a laissé un espace, que je pourrais dire, de liberté. Dieu n'était pas là à chaque étape pour dire, non, c'est pas ça, c'est comme ça. Dieu n'était pas surprotecteur, mais il a laissé Ève et Adam faire leur choix et subir les conséquences qui allaient venir par après. Donc, il y a un espace de liberté que Dieu laisse là. Et je crois que cet espace de liberté qu'il laisse, c'est pour voir justement nos cœurs par rapport à lui. Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Et je vais continuer, là, j'ai quelques petites choses ici. Bon, nous aujourd'hui, on était dans le plus lointain qu'on pouvait dans l'histoire de l'humanité, mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qui en est de la question de la liberté? Parce que dans le fond, Adam et Ève, ce qu'ils ont voulu faire, c'est affirmer leur liberté. Une des choses que moi je pense, en ce qui concerne notre culture aujourd'hui, c'est qu'on valorise beaucoup la liberté. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est une bonne chose en soi la liberté? On est tous contents d'être libres, hein? Dans le monde arabe en ce moment, il y a des grosses manifestations. On appelle ça le printemps arabe, on va dire érable. Mais même nous ici, on aime user de notre liberté, que ce soit individuellement ou en tant que groupe, pour affirmer nos valeurs et tout ça. Puis c'est parfaitement bien en soi. Certains sociologues, c'est-à-dire des personnes qui étudient les sociétés, sont venus à dire que notre société est aujourd'hui ce qu'on appelle une société postmoderne. Puis, j'ai des définitions pour vous, mais dans la société postmoderne, on valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup la liberté. Et des fois, même les bonnes choses, lorsqu'elles sont trop poussées, ça peut devenir une mauvaise chose. Comme, par exemple, la patience, ça peut être une bonne chose, mais si à un moment donné, je suis tellement patient, que j'arrive en retard à mon travail ou je remets pas mes affaires à temps, ça peut devenir l'envers de la médaille, un défaut. Donc, voici la définition. En règle générale, le moment postmoderne est celui où rien ni personne ne peut plus légitimement empêcher un individu de construire sa vie comme bon lui semble ou de s'approprier ses références intellectuelles ou sociales. En contexte postmoderne, tout est une question de choix. Dans le fond, moi, je fais des choix, toi, tu fais tes choix, puis juge pas mes choix. C'est personnel et comme dans le fond, on n'accorde plus la possibilité à l'autre de faire un jugement de valeur sur les choix parce que c'est une question rendue individuelle. Deuxième définition qui va dans le même sens. Chacun ou chacune possède ses propres valeurs dont il est impossible de discuter. Ça le regarde, c'est son choix et il faut le respecter. Chacun a le droit d'organiser sa vie en fonction de ce qu'il juge vraiment important et valable. Personne d'autre ne peut ou ne doit lui dicter quoi que ce soit. Donc, là-dedans, on voit un petit peu que, dans le fond, poussé à l'extrême, la liberté, dans le fond, lorsqu'on ça devient une valeur tellement grande, c'est qu'on ne laisse plus, même pas les gens, dans le fond, avoir une opinion sur nos choix. Et aussi, un autre élément, dans le fond, dans le monde postmoderne dans lequel on vit, c'est que tous les choix sont équivalents, pratiquement. Il n'y a pratiquement pas de choix meilleur que d'autres. Et puis, ça, c'est un petit côté qui, lorsqu'il est trop poussé, ça peut devenir négatif par rapport à la liberté. Si tu pouvais poser une question à Dieu, quelle question lui poserais-tu? Ça, c'est une question que j'ai abordée, c'est une question que j'ai posée à des gens lorsque je faisais un sondage il y a une couple d'années à Gatineau. J'étais dans les rues, puis en fait, c'était filmé et tout, mais j'ai perdu la vidéo, j'aurais pu vous le montrer. Mais je me promenais dans les rues, puis j'interviewais les gens, si on veut, je posais cette question-là. Puis la deuxième question que je posais, c'était, si tu pouvais avoir la réponse, mais ça nécessitait des efforts, combien d'efforts serais-tu prêt à mettre sur 10? Puis, c'est vraiment, vraiment intéressant d'entendre les questions que les gens qui sont pas nécessairement chrétiens engagés, je pourrais dire, se posent. Puis, une des questions qui m'a vraiment frappé, puis sur le coup, j'avais moi-même pas de réponse à ça, alors que je suis quelqu'un qui aime vraiment penser à ma foi puis à faire du sens de ma foi. La question était celle-ci. Pourquoi Dieu nous a laissé si peu de preuves, autres que la Bible, qui peut être vue comme une preuve? Là, c'est littéral, c'est les paroles. Là. C'est contesté comme preuve, ça nécessite la foi. Pourquoi, s'il est omniscient, omniprésent, éternel, il nous a laissé si peu de preuves? S'il a laissé autant de conflits naître à partir de la question « Est-ce que Dieu existe? Est-ce que notre Dieu, selon la Bible, existe? » Donc, la question de la madame, c'était dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu ne se révèle pas plus clairement à tous les êtres humains? Puis, mais moi, je l'ai reformulé ici parce que, dans le fond, la manière que ça communique, dans le fond, c'est pratiquement ça. Pourquoi Dieu ne se présente pas de manière telle que tout le monde sera forcé de reconnaître qu'il existe et qu'il se nomme Jésus-Christ? Pourquoi Dieu n'a pas fait une croix dans le ciel qui dure là pendant 3 mois, en nuages? Pourquoi Dieu n'a pas écrit sur une planète faite par Yahvé? Pourquoi Dieu n'a pas donné des signes clairs et évidents, dans le fond, de son existence? Et moi, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Et puis, il y a plusieurs éléments de réponse qui me sont venus. Mais si je veux être direct, je pense que c'est Philippe Tellier qui a le mieux répondu à ça. Dieu ne veut pas d'une foi qui ne fut choix. Dieu ne veut pas, dans le fond, s'imposer au point tel qu'il va brimer une partie importante de qui nous sommes, parce que nous sommes faits à son image et le fait de choisir, ça reflète qui il est. Il a donc voilé partout son omniprésence dans l'univers physique, dans la personne du Christ, dans la Bible. Ainsi, c'est la qualité du cœur qui fait qu'on opte pour Dieu. Sans elle, la raison trouve aisément de quoi refuser le christianisme. Car la perversion des aspirations de la volonté détourne l'esprit de considérer les preuves de la vraie religion. Centrale est donc l'affirmation célèbre du Dieu caché. Donc, dans la Bible, à un moment donné, dans Ésaïe, ça dit que Dieu est un Dieu caché, que dans le fond, il se manifeste pas de façon telle qu'on n'a plus le choix de croire en lui. Fait qu'il y a comme un espace de liberté que Dieu laisse, et selon cette citation, Dieu la laisse pour justement tester notre cœur. Est-ce qu'on veut de lui ou pas? Et donc, premièrement, évidemment, c'est pas une grosse nouvelle pour personne d'entre vous, je pense qu'on est tous libres. Deuxièmement, se soumettre. Je pense qu'il faut qu'on redéfinisse ce terme qui est amoché aujourd'hui, parce que la soumission est vraiment associée à un contexte de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir maintenant. Je me souviens, à un moment donné, j'étais chez mon père avec Elsa, et puis je me souviens plus trop, Elsa me demandait quelque chose, puis j'ai tout simplement dit « OK, si on va le faire ». Là, mon père me dit « t'es soumis ». Comme si, dans le fond, j'étais plus faible parce que je disais « oui, OK, on va faire ce que tu veux, dans le fond ». Mais il disait ça en blague, évidemment. Mais c'est vu comme ça, la soumission, tu sais, dans le fond, t'es faible. C'est un signe de faiblesse, dans le fond. Et pourquoi? Parce que souvent, ça est à cause de notre nature pécheresse, les êtres humains ont utilisé leur force, leur pouvoir, pour justement assujettir d'autres personnes afin d'avoir plus de force, plus de pouvoir, plus de ressources. Donc, surtout dans le 21e siècle, on a juste à penser aux deux guerres mondiales, aux guerres froides, etc., la colonisation, toutes des personnes qui veulent imposer au niveau national, dans le fond, leur culture ou leur pouvoir sur d'autres. Je suis sûr que dans vos vies personnelles aussi, il y a certaines personnes qui ont voulu, à un moment donné, vous soumettre par la force et que ça l'a alimenté une définition négative de la soumission. Mais voici ce que Jésus, comment lui, il a défini la soumission. Du moins, comment il redéfinit le pouvoir. Dans Matthieu 20, versets 25 à 28, Jésus les appela, dans le fond, les disciples, les douze, et dit, « Vous savez que les chefs des nations tyrannisent les nations, les tyrannisent, dans le fond, tyrannisent leur propre nation, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Wow! Un texte, dans le fond, qui dit « Tu veux être grand, tu veux être comme influent aux yeux de Dieu, vraiment avoir un poste là qui est comme qui a de la valeur aux yeux de Dieu, sers les autres. Mets-toi en position, dans le fond, de les aider, de les bénir, et c'est là que tu as vraiment, aux yeux de Dieu, une grandeur, dans le fond. » Donc, il vient redéfinir tout le rapport d'autorité, de pouvoir par rapport à des personnes qui en dépendent. Je pense qu'une de nos missions en tant que chrétiens de nos jours, c'est de redonner, dans le fond, aux gens le goût de croire en la bonté de Dieu. Et je pense que en tant qu'Église, on réussit bien ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans cette Église, vous vous investissez dans les ministères, que ce soit dans le quartier ici, que ce soit à l'Église, vous vous investissez dans la vie de d'autres personnes, et puis tous ces actes-là, ce temps que vous prenez, ces dons que vous donnez, redonnent le goût de croire dans la bonté de Dieu. Et je pense que ça, c'est essentiel aujourd'hui, parce que personne ne voudra se soumettre à un Dieu s'il ne croit pas d'abord que ce Dieu-là est bon en soi. Et puis, aujourd'hui, les gens ne doutent pas tant de l'existence de Dieu que de sa bonté, à cause justement de tous les exemples que je vous ai donnés. Et personne ne va vraiment se convertir à Jésus-Christ s'il ne croit pas de tout son cœur, de tout son être, qui est vraiment bon. Moi, quand je me suis converti, je vais toujours me souvenir, il y a un homme qui était venu, j'étais sur la rue à Rouyn-Noranda, et puis l'homme nous avait posé une question à 10$. Il nous avait dit, dans le fond, si j'ai une question pour vous, et si vous me donnez la bonne réponse, je vous donne 10$. Et là, il avait utilisé ça pour commencer à nous parler de Jésus. Sa question, c'était, c'est quoi la bonne nouvelle de la Bible? Donc, comme ça, il a réussi à attirer notre attention, puis il a commencé à nous parler de Jésus. Puis, à la fin, il a dit, avant d'entendre nos réponses, dans le fond, il a dit, qui d'entre vous veut faire le saut avec Dieu? Et moi, je me suis dit, j'ai eu un raisonnement intérieur, je me suis dit, Dieu est par définition bon et tout-puissant. Pour moi, c'était la définition évidente de Dieu. Si Dieu, le Créateur n'est pas bon, mais c'est pas Dieu. Puis si il est juste bon, c'est pas Dieu non plus. Il faut qu'il soit bon et tout-puissant. Donc, je me suis dit, c'est sûr que de faire le saut avec Dieu va m'apporter que des bénéfices, des avantages. Ultimement, peut-être en bout de ligne, c'est sûr que je vais être gagnant. C'est comme Dieu est bon et tout-puissant. Dans mon cœur, je dis, oui, je veux faire le saut avec Dieu. Et finalement, bon, je ne compterai pas mon témoignage, mais je pense que ce soir-là, Dieu a vu mon cœur, puis 3 semaines plus tard, il est venu me chercher puissamment dans une expérience que je ne raconterai pas ici, mais Le point de mon histoire, c'est ceci, c'est que j'ai cru tout de suite dans la bonté de Dieu. Pour moi, ce n'était pas un obstacle. Je croyais que Dieu est bon. Satan, qu'est-ce qu'il a fait au tout début dans la Genèse qu'on a lu tantôt? Il a fait douter Adam et Ève de la bonté de Dieu. Je ne sais pas si vous vivez des difficultés en ce moment, des épreuves, mais une des choses que Satan veut faire pendant ces moments difficiles-là dans nos vies, c'est nous faire douter de la bonté de Dieu. Alors que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que un autre passage dans les psaumes, je pense que c'est psaume 138, ça dit que Dieu fait tout pour une fin, pour un but. Il n'y a rien que Dieu permet qui arrive dans nos vies qui est comme sans raison. Tout est pour un but, même si on ne comprend pas maintenant, il faut juste s'accrocher à la bonté de Dieu, à notre foi, à sa bonté, et puis un jour on comprendra. Au même titre que plusieurs d'entre vous avaient des enfants, je ne sais pas, mais les apporter peut-être à 5-6 ans chez le dentiste pour se faire réparer une carie, il faut le convaincre, OK, ça va te faire mal sur le coup, mais c'est pour un plus grand bien, right? Essaie de faire comprendre ça à un enfant, il ne comprendra pas. Mais plus tard, il va comprendre avec la raison. De la même manière, nous, on peut vivre des difficultés dans notre vie où est-ce qu'on on a tendance à vouloir remettre en question la bonté de Dieu, mais c'est de croire dans sa parole qui dit que ça concorde pour notre bien, puis éventuellement, on va comprendre. Éventuellement, on va regarder en arrière, puis on va dire, ah, OK, c'était pour ça. Puis on va voir le bien qui a découlé de ça. Amen. Donc, mon troisième point, au Seigneur. Entre l'élément déclencheur, la situation finale, l'élément déclencheur étant le texte qu'on a lu dans la Genèse, où est-ce que le péché entre dans le monde, et la situation finale, c'est quoi? L'Apocalypse. Il y a ces deux versets qui pointent dans la même direction. Verset 5, chapitre 3 de la Genèse, qui dit « Vous serez comme Dieu », ou autrement dit, « Vous serez votre propre Dieu ». Vous allez déterminer vous-même c'est quoi qui est bien, ce qui est mal. Alors que dans l'Apocalypse 21, verset 7, il est écrit « Tel est l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Donc, dans le fond, on a le choix à quel Dieu tu veux. Tu peux prendre toi-même comme Dieu, tu peux avoir d'autres éléments dans la vie comme Dieu, ou tu peux avoir Dieu comme Dieu. Mais en bout de ligne, on se soumet tous à quelque chose. On se soumet tous à un principe, à une valeur, quelque chose dans notre vie. Et puis, le but de toute cette vie ici-bas, puis de ce travail de Dieu dans l'humanité, c'est d'amener justement les êtres humains à dire « Oui, je vais me soumettre à toi, puis je vais me soumettre de tout mon cœur. » Pas parce que je suis forcé, mais parce que tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu bon, et puis ultimement, je veux faire ta volonté parce que je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Quelle est votre définition de Dieu? J'aime la définition de Dieu de Saint Anselme. Saint Anselme, il disait que Dieu est l'être maximalement grand. Ça, c'est philosophique, là. Mais si tu peux imaginer un Dieu plus... Si tu peux imaginer un être plus grand que Dieu, bien ça, c'est Dieu. Puis, dans la définition de Dieu, c'est évident qu'il vaut mieux, par exemple, être bien, être bon en soi, que d'être mauvais, vous êtes d'accord? Donc, selon la définition de Saint Anselme, c'est Dieu est bon en soi. Et puis, on voit ça dans les Écritures aussi, que Dieu, il dit qu'on parle de Dieu comme étant un Dieu d'amour, un Dieu de justice, dans le sens que c'est des caractéristiques qui le définissent et qu'il ne peut pas changer parce que ça fait partie même de sa nature. Moi, j'aime dire que ma définition de Dieu, c'est celle-ci. J'aime dire que Dieu est la source de toute bonté, beauté et vérité. Tout ce à quoi on aspire, c'est ça, c'est Dieu, en fond. Et avoir cette définition-là de Dieu, je pense, peut nous éviter de faire certaines erreurs. Et là, je viens toucher à un point peut-être sensible qu'on n'a pas souvent, on n'entend peut-être pas souvent le dimanche matin, mais C.S. Lewis, il parle de l'enfer comme étant un lieu où est-ce que, dans le fond, notre liberté est exprimée. En fin de compte, il n'y a que deux sortes de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Tous ceux qui seront en enfer, ils seront parce qu'ils l'ont choisi. Timothée 2, 3 à 6 dit Notre Sauveur, ben là, je vais juste prendre une phrase là-dedans. Hein. Notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3,9 dit, « Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Ézéchiel 18,32 dit, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle de l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Et Jean 3,16, on connaît tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, ces passages rendent clair le fait que Dieu veut que personne n'ait là. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais pourquoi est-ce que certains vont finalement y aller? Simplement parce qu'ils affirment leur liberté, leur volonté, leur choix de refuser que Dieu soit leur Dieu. Et Dieu leur accorde ça. Dieu respecte ça. C'est quand même fou. Est-ce que Dieu est prêt à aller pour respecter notre liberté? Hein? Parce que notre liberté reflète son image. Lui-même est libre, lui-même a une volonté. Et ça, il ne va pas violer ça. Il va nous le permettre, mais jusqu'en bout de ligne, dans le fond, il y a aussi des conséquences liées à nos choix. Et l'ultime conséquence de rejeter Dieu lui-même, c'est un lieu où est-ce que Dieu n'est pas, où est-ce que toutes ces caractéristiques-là dont je vous ai parlé, la beauté, la bonté, la vérité, un lieu où est-ce que toutes ces choses-là ne sont pas. Donc, c'est fou quand on commence à penser, dans le fond, à la question de la liberté, de la soumission, l'amour de Dieu, tout ça. Enfin, Timothy Keller, il dit, « L'enfer est, comme le dit Lewis, le plus grand monument à la liberté de l'homme. » En Romains 1, 24, nous lisons, « C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur. Tout ce que Dieu fait aux gens à la fin, c'est leur donner ce qu'ils désirent le plus, y compris le droit de ne pas lui être soumis. » Quand je regarde les Écritures, je vois un Dieu qui nous laisse faire nos choix librement. Il laissa Adam et Ève manger du fruit défendu et en subir les conséquences. Il met devant nous le chemin de la vie et de la mort et nous demande de choisir. Cependant, bien qu'il nous laisse faire nos choix, il espère à ce que nous le choisissions lui comme Seigneur de notre vie. Cela signifie que, librement, nous acceptions de lui dire « Tu as le droit de me dicter comment je dois vivre. » Quel paradoxe se soumettre librement à Dieu. En bout de ligne, il nous laisse faire nos choix, construire notre vie comme bon nous semble, mais mieux encore, il nous invite à l'organiser comme bon lui semble, ce qui est infiniment meilleur. Ne tombons pas dans cette mentalité du monde où nous construisons ou détruisons notre vie, mais soumettons-nous continuellement à celui qui nous montre le chemin qui mène au Père. Amen. Juste un encouragement à continuer dans la voie qu'on est, puis de, dans le fond, continuer à investir notre vie dans la volonté du Seigneur, à soumettre à ses voies, à sa volonté, et puis de refléter sa bonté auprès des autres pour que justement eux aussi y croient et qu'ils se tournent vers lui. Amen.